French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Au Canada, quand tu annonces ta démission et que, en plus, tu leur expliques la raison de ton projet, moi, j'ai eu des réactions, mais fantastique.
Ouais.
Contrairement, encore une fois, à la France,
ouais,
où je me souviens avoir fait un post sur Facebook en disant que je venais de poser ma dème.
Ouais.
Si tu voyais des messages que j'ai reçus de personnes en France qui n'ont jamais vécu, qui ne savaient même pas la vie que je vivais, mais qui ouais, venaient me donner leur avis, j'étais « mais c'est fou ». Je me souviens, la réaction entre les deux, elle était « mais le jour et la nuit ». Mais j'étais « mais
c'était quoi, pourquoi le jour de réaction t'es ?»«
Ouais, mais tu sais, peut-être que oui, ouvrir un bar, ça peut paraître fun, mais c'est très compliqué. » Tu sais, comme si je m'étais pas renseignée en amont, en fait.
Ouais.
Et comme si ils savaient ce que c'était.
Ouais.
Puis comme si ils savaient ce que c'était de travailler dans une usine aussi, en fait. Enfin, on sait pas la vie que les gens y mènent. Et j'ai demandé mon.
Je connais pas le cheminement non plus, voilà, des gens. Ouais.
Aussi, une autre chose qu'on m'avait prévenue pendant la formation, c'est toujours avoir un plan B. Chaque décision qui est importante et un plan B. Donc moi, je m'étais dit, en plus, c'était pendant le Covid, donc si j'ai le vol qui était annulé, j'avais déjà anticipé ce scénario. Mmh. S'il est annulé, qu'est-ce que tu fais? J'avais demandé à mes parents, est-ce que c'est OK que je reviens chez vous? Et j'avais même contacté le copain de ma cousine qui ouvrait une franchise à l'époque. Et je lui avais dit, est-ce que tu m'accepterais en stage? Pas pour gagner de l'argent,
pour
mais
apprendre,
juste pour que moi, j'apprends des choses qui seront en lien avec ce que j'ai envie de créer. En fait, je pense que maintenant, j'ai accepté que c'est OK de vouloir fréquemment changer d'endroit, mm-hmm, et de job, en fait. Parce que je pense que j'ai accepté que la vie, c'est pas seulement une adresse fixe,
ouais,
et un travail fixe.
Ouais.
Ça peut évoluer avec le temps. Et c'est vrai que du coup, moi, j'évolue tous les 2-3 mois. Donc, ça peut paraître très intense pour certaines personnes. Mais pour moi, ça me correspond. Parce
ouais, c'est un rythme qui te va.
C'est un rythme qui me va parce que dès que j'arrive quelque part, je suis contente de découvrir un nouvel endroit, des nouvelles personnes, un nouveau travail. Et je pense que là, moving forward, comme ils disent les Américains, je pense que c'est ce que je vais m'amuser à faire. En fait, tous les 2-3 mois, je vais me poser quelque part, rester plusieurs mois, mmh, bouger, etc. Jusqu'à ce que je trouve un endroit.
Jusqu'à ce que tu n'aies pas envie de continuer, finalement.
Voilà,
enfin, t'as
exactement,
pas de contrainte.
Il y a des rencontres qui paraissent anodines, des croisements de chemin apparemment insignifiants qui se produisent dans notre quotidien. Mais si, à vous aussi c'est arrivé, que ce soit lors d'une réunion de travail, à la caisse d'un supermarché ou même au détour d'une conférence sur le podcast dans les montagnes du Colorado l'été dernier, le hasard tisse des liens que l'on ne peut prévoir. Ces instants, en apparence anodins, révèlent parfois une destinée préétablie des rencontres que l'on devait faire. C'est ainsi que j'ai croisé le chemin de Kelly Baricello, une rencontre qui a transcendé le simple hasard. Lors de cette conférence sur le podcast, son énergie contagieuse, son sourire enivrant et ses idées foisonnantes ont captivé mon attention. Et tout ça était sans compter son parcours absolument captivant. Alors ce fut comme une évidence. Je devais l'interviewer dans French Expat. Kelly et moi, on a pas mal de points communs. Toutes les deux, on est ingénieurs. Toutes les deux, on est passionnées de podcasts. Et enfin, toutes les deux, notre passion pour le voyage nous a menés à nous installer en Amérique du Nord. Sauf que le parcours de Kelly est bel et bien singulier. À la fin de son premier cycle universitaire, Kelly s'interroge sur la suite de sa vie. Et une question qui va revenir sans cesse au cours de sa carrière s'impose à elle. Quel est le sens que je veux donner à mon futur? Quel est le sens de ce que je vis aujourd'hui, au présent? Ses questionnements vont la mener d'une école d'ingénieur vers l'Angleterre, puis Chicago, dans une industrie assez différente de ce qu'elle fait aujourd'hui, dont la sidérurgie, pour s'installer ensuite au Canada, un pays dont elle va tomber complètement amoureuse. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce serait bien mal connaître Kelly, qui, via cette recherche de sens, ne s'est jamais posée. C'est ainsi qu'on va la retrouver dans les Caraïbes français, où elle va se lancer dans une aventure assez incroyable d'ouvrir une brasserie, puis finalement au Canada, et vous l'aurez donc compris, dans le Colorado l'été dernier, accompagnée de son fidèle compagnon, son van, dans lequel elle dort, et au volant duquel elle explore ce pays continent. Le récit vibrant de Kelly, entre haut et bas, vous invite aujourd'hui donc à vous connecter à son parcours, à vous inspirer de sa détermination à suivre votre propre chemin, malgré les obstacles. Et en suivant son exemple, qui sait, chacun d'entre nous pourra saisir chaque opportunité comme une porte ouverte vers l'épanouissement dans un monde en constante évolution, un peu comme Kelly, la French Expat de la semaine. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, place à l'épisode.
Mais bonjour. Ça va?
Ça va et toi?
Ça se passe bien?
Oui. Ouais. Sauf que j'ai été par là. Je vais où? Je vais là.
Ça va? Ça va,
droite? J'ai très envie de faire pipi.
Eh ben écoute, c'est ton jour de chance.
Ouais, j'avais peur que j'allais avoir beaucoup de réchauds, mais finalement c'était.
Combien de personnes ont tenu ce micro pour passer derrière French Expat?
Oh, je sais pas.
Tu comptes?
Ouais, je sais pas. En personne, effectivement, il y en a de plus en plus.
Ouais, moi j'ai vu. Enfin, et en plus, j'aime bien quand tu fais en face à face. Enfin, mais moi j'aime bien le conversationnel aussi.
Mais c'est ça. Puis il se passe un petit truc un peu différent. Quoi. Ça va, t'as la pression? T'es
non,
bien?
Non, je suis bien.
Salut Kelly, bienvenue à Highland Ridge.
Eh ben merci de m'accueillir dans ta cuisine et pour ce délicieux café.
T'as pas encore goûté ça?
Si.
Ah si, c'est bon. Okay. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi. On va pas faire comme si on se connaissait pas, c'est cool. On s'est rencontrés en vrai la semaine dernière à une conférence sur le podcast et je suis super contente d'avoir l'occasion de faire un épisode avec toi de French Expat. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci à toi pour l'invitation.
My pleasure. Alors Kelly, j'ai remarqué que tu ne connaissais pas la première question de French Expat parce que je la coupe très souvent au montage. Mais si tu te retrouvais là, je sais pas, dans un café, un bar à bière puisque c'est un truc que t'aimes bien, je sais pas, bon, on va dire de n'importe où dans le monde, rempli en fait de Français vivant à l'étranger, comment est-ce que tu te présenterais et qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi?
Alors, est-ce que le bar se trouve en France ou à l'étranger? Ma réponse sera différente.
C'est vrai. Probablement à l'étranger.
À l'étranger, ok. Alors, si je suis face à des Français, dans ces cas-là, je répondrai que je m'appelle Kelly. J'ai 37 ans, ça fait plus de 10 ans que je vis à l'étranger. J'ai vécu avec un frère jumeau en Moselle, mais je suis partie seule à l'âge de 25 ans. Sur papier, je suis ingénieure, chef de projet en sidérurgie, mais depuis 3 ans, j'ai choisi de vivre plusieurs vies, de devenir nomade et d'expérimenter différentes expériences professionnelles, bah, déjà pour grandir professionnellement, mais aussi personnellement.
Voilà. Trop bien. En grandissant, du coup, donc avant tes 25 ans, parce que j'aime bien avoir toujours une petite idée de ce qui s'est passé avant et de ce qui nous amène, ou pas d'ailleurs, à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'était quoi, il y a un peu plus de donc, il y a 12 ans, elle ressemblait à quoi ta vie et quelle a eu la part, je sais pas, du voyage ou de l'étranger dans ta vie en grandissant?
Alors, en fait, moi, mes parents, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas forcément les moyens. Donc, si on partait en vacances, c'était à la Grande Motte ou à Perpignan.
Mais j'y suis jamais allée, c'est cool. En même temps, ça a l'air d'être des
confrères. Ouais, j'adorais aller à la plage. Enfin, je me plains pas du tout de la façon dont j'ai grandi. Mais voilà, on avait très peu de moyens. Mmh. Donc, le voyage ne faisait pas partie intégrante de notre évolution à mon frère et à moi.
Ouais.
Par contre, quand j'ai commencé à pouvoir gagner un peu d'argent, donc à partir de 16 ans en France, on peut travailler. Donc, j'ai commencé à travailler à partir de 16 ans.
C'était quoi ton premier job?
J'ai travaillé comme agent de mairie. J'arrosais les plantes, en fait.
Ah ouais. Ok.
Et ensuite, à 18...
Tu auras peut-être quelques tips à me donner, parce que mes plantes ne sont pas en forme.
Oula, non, je ne te... <Non. rire> te conseille pas. ensuite, à 18 ans, j'ai été caissière dans un Leclerc. Ouais. J'ai aussi été agent de cinéma dans un Gaumont. J'ai aussi...
Donc, plein de petits jobs, quoi.
Ouais, vendu des... Enfin, chef de rayon. Enfin, non, pas chef de rayon. Je remplissais les rayons. Enfin, bref. Mm-hmm. Et tout l'argent que je mettais de côté, c'était deux choses. La première, faire la fête avec mes potes.
T'étais très fêtarde ?
Très, très, très fêtarde. Je le suis toujours un petit peu, je pense. Et la deuxième chose, c'était des voyages. Donc, à l'époque, c'était en plus le développement de notre chère compagnie low cost.
Laquelle, Ryanair ou...
Oui, Ryanair. Ouais. Donc, je suis allée en Angleterre, je suis allée en Suède. Ensuite, là, j'allais plutôt du côté de Dubaï, Thaïlande, Égypte. Donc là, je voyageais, mais du coup, soit avec une copine ou avec ma chère cousine.
Mais comment cette envie t'est venue ? C'est parce que, parce que tu pouvais pas, peut-être que ça t'a tellement donné envie d'aller voir ailleurs ?
C'est en fait d'avoir essayé une fois. En fait, une fois, je suis partie en Espagne et je me suis dit, mais en fait, c'est trop fun. Ouais. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Je galère à commander
c'est
ma bière. Ah non, una cerveza, maintenant je sais.
Okay.
Et en fait, je trouvais ça fun d'essayer d'apprendre une nouvelle culture, etc. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à ça.
D'accord.
Et donc, du coup, pour moi, ça... Et ensuite, je suis partie, je faisais un DUT en physique.
Ouais.
Et mon anglais était vraiment, vraiment nul.
Ouais.
Donc, j'ai ma prof qui m'a dit, écoute, il faut que tu partes. Parce qu'on ne peut rien faire de toi. Et donc, je suis partie.
On ne peut rien faire de toi, c'est ça qui était dit.
C'est carrément ça. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'ai voulu comprendre.
Reçu. Ouais.
Mais en tout bien, tout honneur, parce que du coup, elle m'a accompagnée pour trouver un stage au Pays de Galles. Et donc, du coup, je suis partie. Et là, ça a été la révélation. Surtout qu'à l'époque-là, moi...
Parce que du coup, tu partais pour vivre, pas juste pour les vacances, quoi.
C'est ça. Et puis, en plus, moi, à l'époque, je ne m'entendais pas trop avec mes parents. Je ne m'entendais pas avec mon frère. Donc, j'avais vraiment l'impression que j'avais plus ma place en Moselle.
Ouais.
Tous mes amis étaient partis un peu à droite et à gauche. Enfin, j'avais l'impression d'être... qu'est-ce que je fous là, en fait Et donc là, je suis partie. J'ai l'impression de m'être un peu découverte.
Ouais.
Et là, ça a été une révélation pour moi. Et c'était sûr et certain que le reste de ma vie, je le passerais pas en France, en fait.
D'accord. Ok. T'es partie combien de temps quand t'es partie au Pays de Galles ?
Alors, je suis partie 6 mois.
D'accord. Ouais, donc c'est quand même... Donc c'était ton premier gros voyage, enfin, où tu restais vraiment sur la durée ?
C'est ça. Surtout que j'ai même pas prévenu mes parents que je partais. Donc, je suis vraiment... Je suis partie sans qu'ils le sachent.
Ah oui, t'habitais plus chez eux déjà ?
Non, non, j'habitais chez eux.
Mais comment ?
C'était très discrète, si je veux. Je t'ai dit que je m'entendais pas avec eux. Et j'étais
oui, il n'y a pas à s'entendre et déserter, quoi.
Eh ben ouais, voilà, ben, j'ai déserté. En fait, moi, j'étais en mode, tu me saoules, vous me saoulez, et ben je me casse et je ne dis rien. J'étais un peu rebelle. Hein.
T'étais un peu encore en crise d'ado.
Je pense, ouais.
Un peu décalé. D'accord.
C'est ça. Et donc, ouais, je suis partie sans les prévenir. Donc, tu
ils
vois,
ont réagi comment quand ils s'en sont rendus compte ? Et comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ?
Bah, au bout de plusieurs jours où je ne rentrais pas, ils ont demandé à mon frère, où est ta sœur en fait ? C'est quand même bizarre qu'elle ne rentre pas manger, qu'elle ne dort pas à la maison. Et donc, il leur a dit, en fait, je l'ai déposée à l'aéroport il y a quelques jours et elle est partie en Angleterre. Ouais, je sais, c'est fou cette histoire. Quand j'y repense, je me dis, je suis vraiment horrible d'avoir fait ça. Mais à l'époque, j'avais envie d'être rebelle.
J'espère que mon fils ne me fera jamais ça.
Je te le souhaite aussi. Mais ouais, ça m'a fait du bien, en fait, d'avoir ce côté rebelle.
Et de penser à toi, du coup, de te concentrer sur toi aussi, peut-être un petit peu, quand la vie de famille prend le dessus.
Exactement.
Trop cool, d'accord. Donc, du coup, là, t'as quel âge ? T'es en stage de DUT, donc tu dois avoir pas loin de 20, 21, 22 ?
Ouais, je crois que j'avais 21 ans, parce que je pouvais déjà boire des bières en Angleterre, et je crois qu'ils ont un truc avec l'âge, là-haut, non ? Ça date. En tout cas, je pouvais boire des bières, je te le garantis.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti là-bas ? Donc, grand sentiment de liberté. Est-ce que tu saurais te remémorer, je sais pas, le moment où tu es sortie de l'avion ? C'était ta première fois, du coup, dans ce pays-là ?
C'était la première fois au Pays de Galles, oui. Il faisait moche, il pleuvait, mais j'étais avec une copine à moi qui faisait un DUT.
Ah, cool.
Donc, je pense que j'étais déjà rassurée. Ouais. J'avais vraiment aucune crainte. En plus, on avait déjà trouvé un endroit où dormir. Mais par contre, une chose dont je me souviens de façon très précise, c'est que le premier mois sur place... Toutes les nuits, je rêvais d'un avion qui se crache. Toutes les nuits. Donc, c'est un peu frappant. Tu te lèves le matin et tu vois un avion qui vient de se cracher ou qui explose dans les airs. Mais pourquoi je rêve de ça, en fait Donc, ça, je me souviens très...
Surtout que tu avais déjà pris l'avion pour arriver. Du coup, c'était quoi le sens de ce rêve ?
Alors, en fait, j'ai fait des recherches.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si le monde de l'Internet, à l'époque, disait la vérité.
Alors, selon Google, selon
le
Google, forum d'Optissimo...
Ou Wikipédia, ou je ne sais plus. Je rêvais d'avion qui se crache parce que c'était un sentiment... J'avais un sentiment d'enfin pouvoir m'envoler et de... Enfin, de me découvrir, en fait, d'être indépendante, etc. Donc, je ne vois pas du tout le rapport avec le crash.
D'accord.
Mais c'est ce que je me souviens.
Tu te délestais d'un poids, peut-être, et pour...
Voilà.
D'accord, ok. Est-ce que tu as envisagé de rester au Pays de Galles à ce moment-là ou...
Oui, clairement, parce qu'au départ, mon stage d'Erasmus, c'était un Erasmus, du coup, parce qu'à l'époque, ça faisait toujours partie de l'Europe. Et c'était 3 mois. Sauf que je savais qu'une de mes cousines habitait à Cardiff. Donc, c'était à 3 heures de train de là où je me trouvais. Mm-hmm. Donc, en fait, moi, j'avais fait un DIT, une rentrée décalée. Au lieu de rentrer en septembre, j'étais rentrée en janvier. Donc, mm-hmm. je terminais en janvier. Et je m'étais dit, ben, puisque je ne sais pas quoi faire de janvier à septembre, si je retourne,
si je poursuis,
et ben, je vais demander si je peux aller vivre chez elle, en fait, et trouver un travail sur place.
Et surtout, comme c'est l'Europe, du coup, tu n'as pas besoin de visa pour
rester. Exactement.
Ah, c'est cool, ça.
C'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite précision. Donc, j'ai saisi cette opportunité. Ma cousine a accepté que je vienne squatter une de ses chambres.
Merci cousine.
Et donc je suis arrivée, oui merci à elle. Et donc je suis arrivée et j'ai trouvé un travail dans une entreprise qui fabriquait des gâteaux, mais j'ai même pas eu le temps de commencer en fait. J'allais passer des concours pour une école d'ingénieur. Encore une fois, j'étais sur Google, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai vu qu'il y avait un concours pour une école d'ingénieur à Nancy qui allait entamer une première fois, enfin une promo pour une école d'ingénieur en apprentissage. Mm. Et je me suis dit bah, pourquoi pas tester en fait, mais là du coup... bah, je suis pas restée longtemps à Cardiff au final.
D'accord, du coup, t'as dû rentrer.
Exactement, j'ai dû rentrer pour le concours.
Ouais. D'accord.
Ouais.
Et bah, félicitations, du coup, on en déduit que tu l'as eu.
Oui.
C'est génial. D'accord, et alors, un truc qui est cool dans les écoles d'ingénieurs en France, c'est quand même l'ouverture à l'étranger de manière générale. Est-ce que ça faisait partie de tes critères? Enfin, comment est-ce que t'as construit justement la suite de ton parcours par rapport à ça?
Alors, premier critère, moi, je voulais une école. Généraliste, mm-hmm. parce que je ne savais pas encore dans quelle voie je voulais me diriger. Deuxième critère, apprentissage pour pouvoir gagner de l'argent, pour que j'ai plus besoin de travailler comme caissière au Leclerc, pour pouvoir voyager.
Ouais.
Et troisième critère, un stage à l'étranger. Mm-hmm. Et donc, ça faisait partie du cursus qu'en deuxième année, c'était obligatoire de partir 12 semaines à l'étranger. Si on ne part pas, on va...
12 semaines
pas. 12 semaines, oui.
Ok, super.
Donc voilà, j'ai cette école que j'ai toutes les cases.
D'accord, bah génial. Ok. Donc du coup, te voilà en école d'ingé. Comment est-ce que tu imagines la suite? Du coup, est-ce que tout de suite tu arrives avec ta passion du voyage tout de suite en fait en tant que nouvelle étudiante, ou est-ce que bon, tu prends tes marques? Comment ça se passe?
Alors en fait, déjà trouver une entreprise qui veut te sponsoriser pour être en apprentissage, pour moi, ça a été l'étape numéro un avant que je puisse envisager un futur. Parce que c'est très dur de trouver, surtout que l'école...
Pourtant, ils ont des gros avantages fiscaux, non, les entreprises?
Ils ont, mais à l'époque, c'était pas connu encore.
La taxe
les ingénieurs, en tout cas. Et l'école n'était pas connue non plus. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, je me souviens avoir vraiment envoyé énormément de CV, avoir passé énormément d'entretiens. Donc, moi, pour moi, l'objectif, c'était déjà trouver une entreprise. Ensuite, une fois que j'ai trouvé l'entreprise et que j'ai commencé la première année, où là, c'était justement très généraliste, puisque c'est ce que je recherchais, mais c'était très dur. Mm-hmm. Donc, encore une fois, je ne savais même pas si j'allais passer la première année, en fait.
Ouais, d'accord.
Tellement que c'était compliqué. Donc, à l'époque-là, je me souviens, je ne pensais même pas à mon stage à l'étranger. Ouais, parce que pour moi, c'était
ça paraissait trop loin, quoi.
Faut que je passe les examens, en fait. Et pour l'instant, je galère.
Ouais.
Donc, et puis j'étais fêtarde, je te le rappelle. Donc là,
oui, ça s'est pas arrêté.
À un moment donné, il faut te dire, bon,
Kelly. Il a fallu faire des choix.
C'est ça. Donc, et c'est seulement après, une fois que là où les choses commençaient un peu à aller plus facilement, entre guillemets, où j'ai rencontré ma meilleure amie Julie, qui m'a beaucoup aidée à réussir cette école. En fait, on s'entraidait, on révisait ensemble, on faisait moins la fête. Mais je me souviens qu'un de nos critères, c'était on ne peut pas boire de bière le temps qu'on n'a pas fini tous nos exercices de mécanique. C'est horrible. Je passe pour une alcoolique. Mais non, on buvait qu'une Heineken. C'était un peu notre façon de décompresser.
T'es étudiante, quoi, c'est rien de méchant.
Oui, voilà. Ouais. Faut dire ce qu'il y a.
D'accord.
Et ensuite, là, une fois qu'il fallait trouver le stage à l'étranger, donc là, il faut vraiment y réfléchir. En fait, je travaillais pour ArcelorMittal, grosse entreprise.
Comme apprentissage?
Oui.
Comme apprentissage, ouais.
Donc, ils ont des entreprises partout dans le monde. Donc, c'est pas compliqué. En fait, j'ai pris la carte des usines d'ArcelorMittal, j'ai vu Chicago, j'ai dit, c'est là où je vais aller sans réfléchir.
Ah ouais?
Et sans regarder
donc
les autres.
Donc, tu t'es juste basé sur la destination.
Ouais.
Pourquoi Chicago? Tu pouvais faire du tricot là-bas, t'en avais rien à faire.
Exactement. Et je me souviens que quand je devais envoyer la lettre de motivation, normalement, la lettre de motivation, il faut quand même mettre en avant pourquoi Chicago, l'usine de Chicago, etc. J'étais, là, il va falloir que je...
Il n'y avait pas de ChatGPT pour faire de la broderie.
Il n'y avait pas de ChatGPT. Mais je me souviens avoir raconté un truc dans ma lettre de motivation. Comme quoi, il y a la tour John Hancock qui est au niveau architecture, c'est quelque chose d'incroyable.
Qui est un truc hyper connu,
Donc j'ai fait croire que j'étais passionnée d'architecture et que j'avais absolument envie de découvrir.
D'accord, mais en tout cas, ça a marché.
Fake it until you make it.
Ouais, ok. Donc du coup, ça a fonctionné.
Ouais.
Te voilà partie à Chicago, donc du coup, 12 semaines, pas long, presque 6 mois.
Ouais. C'est ça? 12 semaines, ça fait 3-4 mois.
Ouais.
Ouais.
Oui, c'est ça. Ok, 4, ça 12, se passe bien. 4. Donc du coup, est-ce que tu étais déjà allée aux États-Unis avant ça?
Jamais, j'avais jamais mis un pied, j'étais jamais partie aussi loin. Mm-hmm. Enfin, quoique si j'étais partie en Thaïlande, mais en voyage. Et le plus bel été de ma vie, encore aujourd'hui, ça reste le meilleur été de ma vie. Mais encore une fois, est-ce que je l'explique parce que j'avais l'impression de me redécouvrir personnellement, Il faisait un temps incroyable. J'ai rencontré des personnes qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont fait faire des activités un peu à l'américaine, en fait. Donc,
comment ça, à l'américaine? C'est quoi les activités à l'américaine?
Bah, tu sais, les Américains, c'est vrai que du coup, comparé à la Moselle, ils vont aller camper tous les week-ends, ils vont aller dans des fêtes foraines. Enfin, tu sais, je trouve qu'ils profitent un petit peu plus des activités qu'il y a autour de chez eux. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est ce que je pensais.
Par rapport, en tout cas, à tout ce que tu as connu avant, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, après, c'est vrai que j'étais une petite attraction.
Je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit, toujours en fait dans cette grande découverte de moi, de la liberté, etc. Tu peux approfondir en fait là-dessus. Qu'est-ce que tu as découvert en toi en fait entre cette première expérience du coup au Pays de Galles, après aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu as appris sur la Kelly que tu es peut-être aujourd'hui que tu ne savais pas avant d'entamer du coup ce cycle ingénieur?
Alors moi déjà, un des premiers critères qui va peut-être te parler puisque tu vis aux États-Unis, mais déjà le fait que l'apparence, on s'en fout.
Ouais.
Et moi, ça, je me souviens que ça m'a marqué parce qu'en France, j'étais tout le temps au régime. Tout le temps en régime parce que je me trouvais pas assez bien. Tout le temps à devoir faire mon maquillage, mes cheveux avant de sortir de chez moi le matin. Et là, en arrivant aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'en fout de la façon dont tu t'habilles. On s'en fout si t'es maquillée. Tu peux sortir.
En tout cas, t'as pas le même regard de la société.
Non, exactement. Ouais. Et donc, moi, ça, déjà, j'ai senti un poids en moins sur moi. Qui était dingue en fait. Mmh. Et donc ça déjà, je pense que ça a été important. Le fait aussi du coup que j'étais en train d'évoluer rien qu'au niveau de la langue.
Ouais.
Tu vois, j'avais l'impression que je faisais quelque chose.
Du coup, t'es arrivée avec ton accent gallois.
Oh,
what are you?
Ah non, l'accent français de 1000%.
Parce que l'accent gallois, quand tu habites aux États-Unis, quand tu parles l'anglais nord-américain, accent gallois ou écossais aussi, c'est des accents assez forts.
Je parlais toujours pas anglais après mes 6 mois
<D'accord.
rire> au Pays de Galles. D'ailleurs, je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient les Américains. Pendant un mois, je ne comprenais rien.
Je me souviens
des fous rires qu'ils avaient. Moi, je les regardais, je disais, je ne sais pas ce que je viens de dire, mais ok, apparemment, je suis assez drôle.
Ouais.
C'était vraiment... c'était compliqué. Mm-hmm. Mais compliqué, mais dans le bon sens où je savais que c'était pour mon bien, en fait.
Ouais.
Donc, je pense que ça, les deux critères-là. Et puis aussi, peut-être que... c'était pas la première fois que je vivais seule parce que j'étais déjà partie de chez mes parents à l'époque. Mais peut-être que t'as moins de comptes à rendre ou je sais pas. Peut-être le fait que maintenant je me suis éloignée de mon frère jumeau. Ou... Tu vois, je sais pas. J'ai l'impression que tu vis un peu plus ta vie.
Un certain envol.
Ouais, je sais pas si c'est très sympa de dire des choses comme ça, mais je pense que c'est ce que j'ai ressenti. Mais je pense que la pression et la façon... tu vois, je pouvais manger ce que je veux et qu'il n'y a personne qui me dit « Ouais, tu ne devrais pas manger une deuxième assiette, t'es assez grosse. »
De
ne
pas avoir honte de manger en public.
En France, tu vois, on m'a déjà fait des réflexions comme ça. Et quand j'y repense, je me dis « Mais c'est horrible de dire ça à des gens. » Et là, je n'avais pas du tout. Au contraire, les gens, ils me disaient « Ouais, vas-y, viens, je vais aller te faire tester tel truc. » Et puis moi, j'adore ça, manger. Donc, je peux en faire
pas
ce que je veux.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Ouais. D'accord. Donc, en gros, grande acceptation de toi, grande liberté. La vie est belle.
Exactement.
Et du coup, tu te dis rapidement, j'en veux plus.
J'en veux clairement plus. Et d'ailleurs, à la fin de mon stage, quelques jours avant mon départ, on m'a proposé de me garder pour ma dernière année d'apprentissage et que je fasse mon mémoire,
dans
l'usine. Voilà.
D'accord.
Chose que j'ai refusée pour deux raisons. Déjà, je m'étais engagée en France. Donc pour moi, quand tu t'engages dans quelque chose...
Tu t'es engagée auprès de quoi?
De mon entreprise en France. En fait, ils m'ont pris
De l'autre filiale, quoi. Enfin, du siège.
On m'a engagée pendant 3 ans. J'avais un projet de fin d'études. Pour moi, il y avait déjà un projet. Il y avait un tuteur. Donc, pour moi, la moindre des choses, c'est de finaliser son truc. Et puis, parce que je n'avais pas envie de le faire en anglais non plus, je me disais,
d'accord,
oui, là, j'ai bien évolué. Mais de là à en faire un mémoire, quand même pas, tu vois.
Ouais, d'accord.
Donc, je leur ai dit, si vous êtes sérieux et que vous êtes intéressé par m'embaucher éventuellement, dans un an, je serai disponible, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Un an après, j'ai renvoyé un email en disant,
salut, je suis prête.
J'approche, c'est la fin, là. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, ça a tout de suite été négociation par rapport au contrat de travail, un peu davantage d'expat, quand même. Mm-hmm. Parce que même si je n'ai pas eu un contrat d'expat, j'ai quand même eu mon billet d'avion qui a été payé.
Ah, sympa.
Ouais, conteneur aérien, conteneur...
Sympa, c'est vachement sympa.
Marin, ouais. Donc, c'était quand même sympa. Quoi.
Donc, conteneur, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le déménagement, quoi, en gros.
C'est ça. Donc, je n'avais pas grand-chose, étant étudiante.
Ouais,
mais
c'est
le
quand même
que j'avais,
sympa
je les ai pris
de
ne
pas avoir juste une valise.
Clairement.
En tout cas, d'avoir le choix. Si tu veux faire partir qu'avec une valise, tu peux, mais d'avoir le choix, c'est...
Ouais, cool. À refaire, je serais partie qu'avec une valise.
Ouais.
Ouais.
Moi, je trouve, pour avoir déménagé comme ça pas mal de fois, je trouve que ça nous alourdit physiquement, certes, de trimballer plein de choses, mais des fois, justement, on parle de liberté, de se sentir libre. C'est... J'ai un peu du mal à l'exprimer, mais ça... It weighs you down. Enfin, tu vois, t'as plus d'inertie, c'est plus difficile, je trouve, de se mettre en mouvement, d'être spontané avec plein de choses quand... quand ta maison est remplie de trucs, quoi.
Bah, carrément. Enfin, moi, là, je me souviens d'un truc tout bête que j'ai embarqué avec moi. C'est un carton avec toutes mes photos de jeunesse.
Ouais.
Bah, ce carton-là, il est dans une cave chez des amis.
Ouais, à Chicago.
Au Canada.
Au Canada, ouais.
Et tu vois, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas laissé chez mes parents, en fait, ouais. Ils bougent pas. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Et quand j'y retourne,
tu leur as dit, du coup, que tu as déménagé. Ils savent que...
Oui, oui, quand même. De toute façon, quand je suis revenue de mon stage à Chicago, je leur ai dit, c'est sûr et certain, là, je reviens un an et je repars. Ça, je
d'accord.
Tout le monde était au courant.
Ouais. Au fond de tes tripes, quoi.
Ouais.
D'accord, ok.
Je suis vocale aussi, par moment.
Du coup, donc, tu viens faire cette... T'es revenue combien de temps, du coup, quand quand t'étais embauchée?
Je suis revenue en janvier 2012 et je suis partie en novembre 2014. Et donc, oui, du coup, je suis revenue. Et là, pareil, l'installation s'est très bien déroulée. J'ai vécu des mois incroyables. J'ai rencontré mon premier Américain. J'ai vraiment découvert la culture.
Comment ça, mon premier Américain?
Ouais, le premier et le seul, d'ailleurs.
Ton premier amour américain,
mon premier amoureux américain.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que ça fait quand même un moment que tu étais aux US, quoi. Je me disais, tiens.
Oui. Non, non, quand je suis arrivée la deuxième fois, la première fois, non. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Bah, un Américain.
T'as pas rencontré un Américain. Ok.
Je veux te dire ton premier mec, quoi.
Mon premier mec. D'accord. Américain.
Ok.
Donc, je trouve que parce que c'est sympa, et bah, toi, tu le sais, hein, par expérience aussi, c'est que quand tu sors avec un Américain, du coup, tu découvres une autre facette de la culture et puis tu te fais inviter à un Thanksgiving. Là, t'es vraiment dans la famille. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ouais, c'était sympa. Mais au niveau du travail, c'était très, très, très intense.
Tu travaillais en usine, du coup?
Je travaillais en usine.
C'est un rythme, que tu sois aux US ou en France, j'imagine, qui est très compliqué aussi. Enfin, qui est
physique. Après, j'ai jamais vraiment travaillé en tant qu'ingénieur en France en usine. Enfin, j'étais en apprentissage. Mais là, je trouvais que les États-Unis, c'était un level supérieur, surtout pour une femme. Au niveau des horaires, en fait. J'étais là à 6h30 le matin, je partais pas avant 18h. T'as quasiment pas de pause à midi. Enfin, tu vois, tu sors pas pour aller manger, prendre ton temps. Ouais. Le week-end, t'es toujours sur ton téléphone à répondre à des emails. Ah, c'était intense, quoi. Et en tant que femme, moi, je me voyais pas du tout évoluer dans l'entreprise parce que je voyais bien que d'autres femmes n'avaient pas été évoluées.
Partaient, quoi.
Partaient, ou soit elles évoluaient pas, elles avaient accepté qu'elles évolueraient pas et qu'elles auraient ce poste-là jusqu'à la retraite. Et pour moi, c'était hors de question.
Ouais.
Et en plus de ça, à l'époque, on avait énormément de difficultés sur l'usine. D'ailleurs, j'ai bien fait de partir parce qu'ils ont vendu. C'est que dès qu'on avait un souci, on nous demandait, nous, en tant qu'ingé, contacter les ingénieurs du Canada, l'usine du Canada, et demander-leur s'ils ont déjà fait face à ce challenge et comment ils l'ont résolu.
Ah oui, des solutions high-tech.
Voilà, je me dis, attends, si eux ils savent, qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi je ne vais pas apprendre chez eux, en fait? Et donc, c'est pour ça qu'ensuite je suis partie au Canada.
Chez eux?
Chez eux. Dans l'usine, ok.
Dans l'usine. D'accord. C'était simple d'un point de vue visa, etc., immigration Parce que du coup, la première fois, ils t'ont fait quoi? Un J1 ou un truc comme ça venir?
Ouais, c'était assez... Oui, c'est simple parce qu'en plus, t'es un avocat. Et puis, ce qui est sympa avec le visa américain, c'est que tu l'obtiens à l'ambassade américaine de Paris. Mm-hmm. Donc, tu l'as déjà en poche avant de partir, ce qui n'est pas le cas pour le Canada.
D'accord.
Où là, ça a été un petit peu plus challengeant parce que du coup, je pense que je l'ai déjà... Je sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire, mais en passant la douane... On m'a refusé mon permis de travail, donc on voulait pas que je passe la douane, en fait. Mais moi, mon camion avec mes affaires était déjà parti. Enfin, j'étais dans ma voiture en train d'arriver pour commencer une nouvelle vie.
Ah oui, tu passais la frontière terrestre.
Voilà, t'es obligé de passer là, sur place qu'on te le donne. Mm-hmm. Pareil pour les Français qui arrivent en France, qui arrivent au Canada. Du coup, ils doivent prendre le vol et c'est seulement une fois sur place qu'ils vont l'obtenir.
Qui donnent tous leurs papiers à la douane pour arrêter.
Exactement. Donc, s'il y a une erreur dans ton dossier, eh ben, tu fais demi-tour.
Et là, t'as fait quoi quand on t'a refusé cet accès-là?
Et bah, du coup, j'ai appelé l'avocat, en fait. J'ai appelé l'avocat en lui disant, il y a un problème dans le dossier, je sais pas ce qui se passe, on veut pas me le donner. Donc, ça a duré 3 heures, je sais pas ce que l'avocat a fait dans mon dos. Moi, je me souviens être assise dans la salle d'attente à attendre.
C'était où que tu passais la douane?
J'étais près de Détroit.
D'accord.
Parce qu'il m'avait dit, passe à Détroit, c'est une grosse...
Un gros centre?
Un gros centre, donc ce sera plus facile. mais du coup, je me souviens que c'était stressant, en fait. Mm-hmm. Et puis, finalement, je suis passée. Et je me souviens que la première chose que j'ai fait, comme j'aime manger mes émotions, c'est que j'ai été manger une poutine au McDo juste après la frontière.
Donc, ce n'est pas un mythe, il y a de la poutine au McDo. Enfin, il y a de la poutine partout.
Oui.
Alors, c'est quoi la poutine, pour les gens qui ne connaissent pas?
La poutine, c'est des frites avec une sauce brune de viande.
Du gravy, là, ça.
Ouais, du gravy. Mmh. Et du fromage. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle, ce fromage-là, mais c'est un fromage assez particulier. Je crois qu'ils en font aussi aux États-Unis, hein, tu peux en trouver. Qui est un peu dur, un peu comme un plastique, comme ça. Mais comme c'est mis au four... Ouais, c'est vrai que la sensation dans la bouche, ça fait un peu du plastique. Ah. Mais comme ils le mettent au four, ça...
Tu le vends vachement bien.
Ouais, je sais. Non, c'est vrai que ça donne pas envie. Mais je vous jure que c'est trop bon.
C'est vrai que les McDo, c'est marrant. Je serais curieuse, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, mais les McDo sortent beaucoup des spécialités en fait, régionales. Je sais que dans le Maine, en été, il y a le lobster crab, le lobster roll du McDo qui sort
mais non.
Au McDo. Ouais. Quand j'allais à Acadia, on était tombé là-dessus. Du coup, la poutine, je suis sûre qu'il y en a un peu partout.
Moi, je me souviens en Italie aussi avoir vu, je crois que c'était, tu sais, les espèces de pains baguettes que nous, on mange à l'apéro en France.
Crostini, là.
Ouais, les espèces de crostini.
D'accord.
Je me souviens d'avoir vu au McDo.
Et tu vois, comme quoi, écoutez, vous nous direz ce que vous avez trouvé au fur et à mesure de vos voyages. Donc, du coup, tu arrives à passer la douane.
Oui.
Direction où, du coup, au Canada, là, pour continuer ton aventure?
Donc là, j'allais dans l'usine d'Hamilton, qui se trouve entre Toronto et les chutes du Niagara.
Comment ça se passe là-bas? Tu restes combien de temps? Est-ce que la vie au Canada est très différente de la vie en France, certainement, mais aux États-Unis, ce que tu avais connu juste avant?
Alors, elle est différente sans l'être vraiment, parce que du coup, comme on est très proche de la frontière américaine, donc on a toujours un peu cette mentalité positive, encourageante, où on fait ce qu'on veut. Et...
Pourquoi tu penses que tu l'as pas si tu t'éloignes de la frontière?
Ben, c'est le cas pour le Québec.
Ah ouais?
Je trouve.
Vous deux, t'aimes pas le Québec. Enfin, ça,
Je suis pas une grosse fan.
Toute la semaine dernière, à la conférence, elle avait tenu à dire à tout le monde qu'elle était canadienne, mais pas du Québec.
Voilà. J'aime bien que les gens sachent. Okay. Non, parce que du coup, c'est vrai que quand on est dans une province anglophone comparée à une province francophone, c'est... Je trouve que les mentalités changent.
Ah ouais.
Bon, c'est mon avis à moi. Mais du coup, ce que j'ai adoré par contre, travailler dans l'usine au Canada, alors déjà de 1. La santé pour eux, c'est très important. Donc, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de mental health, que c'était
la santé mentale.
C'était OK de se sentir pas bien ou d'avoir des doutes, etc. Ils apportaient énormément de soutien par rapport à ça.
Et qu'il n'y a pas besoin de se cacher finalement de
questionnements. Il faut parler de ses émotions, il faut parler de tout ça parce que c'est en parlant qu'on avance en fait. Donc, ça, déjà, j'ai trouvé que c'était incroyable. Je dis beaucoup le mot incroyable juste pour information.
C'est très américain.
Et même si oui, j'avais pris du recul sur mon look et sur la façon et le paraître, etc.
Ouais.
Mais ça n'empêche qu'il y avait des salles de sport, des cours de yoga qui s'étaient proposés, des personal coach.
Des coachs.
Ouais, je sais plus.
Enfin,
sportifs.
Ah bah des coachs sportifs.
Des coachs sportifs.
Des profs de sport quoi.
Voilà, c'est ça le mot que je cherchais.
D'accord.
Des profs de sport. Et donc du coup j'ai adoré ça aussi parce que du coup j'avais le sentiment que c'était important. Je venais pas seulement à l'usine pour travailler.
T'avais un équilibre,
un équilibre
entre le pro et le perso.
Exactement, donc ça c'était très différent des États-Unis. Et en plus de ça, ça paraît bête, hein, mais moi maintenant quand je vois une entreprise ou même une start-up, la première chose que je fais c'est je prends l'organigramme, et je regarde quelle est la disparité entre hommes et femmes, en fait, parce que j'ai remarqué que dans ma vie, c'est une valeur importante qu'il y ait une disparité entre les deux.
Et justement, tu veux pas qu'il y ait disparité.
Je veux pas qu'il y ait une disparité, pardon. Je veux qu'il y ait autant d'hommes que de femmes.
Une valeur importante pour toi, c'est l'égalité.
Ouais. Et là, c'était aussi le cas.
D'accord.
Il y avait énormément de femmes.
Ce qui est rare dans les usines.
Exactement.
D'autant plus dans la chirurgie.
Oui. Et ça s'est vite ressenti parce qu'on m'a rapidement fait confiance. On m'a rapidement donné des projets qui étaient importants pour l'entreprise, où il y avait beaucoup d'argent mis en jeu. Et du coup, là, niveau professionnel, professionnellement, je me suis vraiment amusée, j'ai vraiment évolué. Je me suis retrouvée dans des situations très, très compliquées aussi, parce qu'on a tendance à dire « ouais, t'es courageuse, oui, etc. » Non, 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 j'ai eu des crises de panique, j'ai eu des moments de doute, etc. Mais c'est comme ça qu'on évolue, je pense.
Mm-hmm.
Et donc, du coup...
On peut évoluer sans avoir de crise de panique aussi. Hein.
Aussi. Mais bon, des fois, je trouve...
Mais ça arrive et c'est OK.
Je trouve qu'avoir du stress, c'est bien. Ça veut dire que je me suis mise dans une situation... où je n'ai pas l'habitude d'être, et c'est ça qui va me permettre
d'avancer.
Ouais. Mais voilà, au bout de quelques années, je dirais au bout de 4 ans, 5 ans, voilà, ça devenait un peu trop une routine pour moi. Non, je suis restée 6 ans, mais au bout de 4 ans, je commençais à me reposer des questions. Et là, je me dis, punaise, mais pourquoi chaque fois, tous les 3 ans, il faut que je parte ou quoi?
Et c'était quoi tes questions? Des questions sur le sens de ce que tu faisais ou...
Mais j'avais l'impression d'être un pion quand même pour l'entreprise, tu vois, même si j'avais cru voir que c'était important, mon bien-être, etc. Mais ça n'empêche que je reste un pion, que ça reste le monde du corporate et que... voilà quoi, on reste quand même petit dans cette chaîne de CEO, etc. Et en fait, j'avais souvent de la frustration.
Tu voulais avoir plus d'impact sur l'avenir des trucs que tu faisais avec l'entreprise.
Oui, je voulais faire une différence. Et on me disait, mais oui, mais tu te rends compte, l'acier qu'on produit, c'est pour faire des lits d'hôpitaux, c'est pour construire des ponts. On fait une différence. Ouais, mais non, je ne le vois pas en fait.
Mais à titre individuel, tu voulais avoir un impact un peu plus fort.
Exactement.
D'accord.
Donc, la grosse remise en question, encore une fois.
Comment se passe cette remise en question ? Parce que comme c'est pas la première fois que tu passes par là, est-ce que tu restes toute seule un peu à réfléchir ? Comme tu dis, tu as eu de nouvelles... pas de nouveaux outils, mais tu as été un peu ouverte finalement au questionnement sur la santé mentale aussi. Mm-hmm. Comment est-ce que ça s'organise ? Comment ça s'articule ? Est-ce que tu arrives à l'extérioriser, à en parler autour de toi ?
Pas non. Vraiment, parce que déjà, j'ose pas trop en parler au Canada parce que c'est mes collègues la plupart du temps, mes amis. Donc je me dis, bon, j'ai pas envie non plus que
c'est
le
dangereux.
Ouais. On commence à dire, ah, Kelly, tu es en train d'envisager de partir. En parler en France non plus,
ouais.
Parce que là, on me répond, mais qu'est-ce que tu te plains ? Tu gagnes bien ta vie.
On t'a dit ça ou est-ce que toi qui te mettais des barrières à dire, non, on va me dire ça ?
On me l'a dit. Alors, parce que tu te plains quand même de ce que t'as... Bah, on me l'a dit, oui, mais pourquoi tu te plains ? Tu
vis dans un pays... On se plaint comme on se plaint pas aussi. Enfin, je veux dire, c'est la vraie vie, quoi. C'est
exactement.
Comme... Que tu habites en Bretagne ou à Montréal,
ouais,
il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas.
Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que pour les Français qui sont restés en France, qui sont jamais partis vivre à l'étranger, qui ont peut-être pas eu ce courage de partir, mais ils ont l'impression.
Ou pas eu envie, même.
Ouais, ou pas eu l'envie, exactement. Nous, on dégage une image de. Ouais, mais nous, ce qu'on est en train de vivre, c'est. Je vais pas redire incroyable, mais c'est quelque chose d'unique.
Ouais.
On n'a pas le droit de se plaindre, en fait. Hum. T'as jamais eu ce sentiment-là ?
Ben, on me l'a. Peut-être qu'on n'a jamais osé me le dire.
Oui, peut-être, ouais.
Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, effectivement.
Ok, donc c'est pas moi.
Non,
c'est pas que mon entourage. Mais donc du coup, ça a été compliqué. Je me souviens avoir été sur Google, encore une fois, et chercher des livres de développement personnel.
Ah oui, je t'avais entendu en parler sur le podcast de Mathilde.
Ouais. Donc développement personnel, j'ai voulu même envisager prendre un coach, mais à l'époque, j'avais pas envie d'investir par rapport à ça, parce que pour moi, à l'époque, dépenser de l'argent, c'était acheter des biens matériels. Ou un billet d'avion. Et au final, ça a été très compliqué. Ça a pris des années jusqu'à ce que je commence un peu à écouter les podcasts. Hein. Mmh. Les podcasts, pour moi, ça a été un gros changement parce que là, du coup, tu entends des témoignages de personnes qui t'expliquent si tu veux que ça change, il faut que ça bouge, en fait. Mais tu es le seul qui peut faire
ça. Et comment est-ce que tu as trouvé des podcasts, justement, qui pouvaient t'aider là-dessus ? Tu as une idée de quel podcast, justement, je sais pas, ceux qui pourraient aider des gens qui nous écoutent ?
Moi, j'écoutais beaucoup des podcasts voyage.
Dès le début, oui, forcément.
Ouais, parce que ça me permettait de m'évader, en fait. Et en fait, ou même des podcasts de changement de vie. Mmh. Mais ce qui me frustrait dans ces podcasts, c'est qu'ils n'attaquaient pas l'étape première, c'est comment tu as le déclic et comment est-ce que tu lâches tout
en action.
Fait.
Ouais.
Eux, ils parlent tout de suite de je suis partie, j'ai fait ça, ouais. Et ils parlent de la suite. Donc, ça a été compliqué. Et ensuite, je ne sais pas si tu connais Rachel Hollis, mais elle avait écrit un livre qui s'appelle Girl, Wash Your Face. Et c'est vraiment, elle se battait pour faire réaliser aux femmes que si, c'est possible, mais c'est à nous de. Bah, c'est à nous de faire bouger les choses et
d'accord.
D'arrêter de se cacher derrière des excuses. Et elle a fait une conférence qui s'appelle Rise. D'ailleurs, il y a un documentaire que j'invite les gens à aller voir sur YouTube,
mm-hmm.
qui est vraiment inspirant. Et en fait, en allant à sa conférence avec des copines, qui était que j'avais commencé quand même à en parler un peu tout doucement à des copines autour de moi. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, il faut que ça change.
Et alors, comment est-ce que tu t'y prends pour que ça change ?
Comment tu
sais quoi qui doit changer ?
J'ai pris un coach.
Là, t'as pris. D'accord.
Là, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être accompagnée, en fait.
D'accord.
Là, je venais d'avoir le déclic que c'était à moi de faire bouger les choses. Maintenant, si je veux que les choses bougent, je prends un coach.
Et quel type de coach ? Comment est-ce que tu trouves un coach ? Parce que, pardon pour tous les coachs, s'il y en a qui nous écoutent, mais on trouve quand même un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est difficile de savoir qui est-ce qui est légitime et qui est-ce qui ne l'est pas. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde peut se dire coach. Comment est-ce que tu t'y prends du coup ? Est-ce que tu te fais coacher en anglais, en français ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est local du coup avec toi au Canada ou non ? Et quels sont tes objectifs concrets quoi ? Genre tu vas le voir en disant « Ok, je veux que ça arrive ».
Alors, c'est le bouche à oreille pour moi, c'est très important.
Ouais.
Les retours d'expérience. Donc moi, j'avais ma meilleure amie Julie qui est française, qui vit en France. Je savais que sa sœur était passée par là. Donc elle m'en avait parlé. Échange voir avec ma sœur, voir si elle a peut-être des conseils. Et ensuite, donc j'ai contacté Émilie. Qui est donc la sœur et qui mm-hmm. m'a dit écoute moi je te conseille de suivre Charlotte de Post-Adem en France mm-hmm. Parce que moi j'adore ce qu'elle fait donc j'avais commencé déjà à m'inscrire tu sais à la newsletter
ouais.
Ils ont un groupe privé Facebook et tu sais t'es toujours en garde en veille dans le sens où
okay.
Tu lis les newsletters tu, mm-hmm. tu suis un peu tous les posts mais tu restes discret en
ouais.
fait t'es juste en observation
ouais.
Donc déjà tu sais je commençais
c'est une,
déjà,
phase. Ouais.
c'est une phase très importante je pense. Et donc, comme moi, j'étais dans cette étape de je dois poser MADEM. En plus, avec une entreprise qui s'appelle PostADEM, je commençais à suivre des lives qu'elle faisait et je me rendais compte que oui, en fait, elle me parlait, cette femme. Même si je t'avoue qu'en voyant son profil, je me disais, oulala, ça c'est le genre de nana, je sais pas, tu sais.
Pourquoi c'est quoi son
elle est super jolie, elle a l'air super heureuse. Je me dis, moi, je me retrouve pas dans ce genre de personnage, en fait.
Ah, genre, tu t'identifiais pas parce
non,
que...
Non, je m'identifiais. D'accord. Oui, bah okay. Après, c'est vrai que...
Non, mais on a tous nos blocages perso. Hein, mais ouais.
On choisit un livre par sa couverture, ouais. En général. Une bouteille de vin par le logo qu'il y a dessus.
Non, ça, c'est très américain, ouais. De choisir une bouteille de vin juste par l'étiquette.
Moi aussi. mais donc, du coup, voilà. Et donc, j'ai décidé d'aller avec cette entreprise-là.
D'accord. Et donc, elle t'a fait un coaching one-on-one ?
Alors, à l'époque, parce que ce Covid a commencé à cette époque-là, en plus.
D'accord. Donc là, on est début 2020.
Ouais.
T'es toujours au Canada ?
Je suis toujours au Canada, je travaille toujours pour mon entreprise.
Ouais.
Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, comme par hasard, ils lancent une formation qui s'appelle Side Project. Et c'est comment réussir à construire un projet en parallèle de ton travail à temps plein. Et ça allait être un groupe de 40 personnes maximum qui peuvent se trouver n'importe où dans le monde. Ça allait être en distance. Ça allait être un programme que tu suis à ton rythme. En fait, une formation digitale comme on en trouve beaucoup maintenant. À l'époque, ça a commencé...
Ouais.
Et donc, du coup, j'ai commencé cette formation en, je crois que c'était début juin 2020. Et un mois après, je posais MADEM, alors que normalement, t'es censé poser TADEM 3 mois à la fin de la formation. Moi, non, je n'attendrai plus.
Et c'était quoi ton idée d'un side project à ce moment-là ? Parce que je sais après ce que c'était, mais c'est devenu assez clair pour toi rapidement ou...
Alors, en fait, quand j'ai fait mon appel découverte avec Charlotte, je savais que je voulais... ouvrir un bar à bière en Guadeloupe. Je savais
déjà d'accord, c'était quand même très clair.
C'était très clair.
Ouais.
Sauf que sa formation, ça demande de faire une étude de marché, ça demande de questionner des gens qui se trouvent dans le pays où tu souhaites lancer ton projet. Donc moi, ce n'était pas possible. Donc j'ai choisi FIExpat comme side project.
Ah, ça a été le projet sur lequel tu as bossé.
Ouais.
D'accord,
ouais.
Ok.
Et j'avais quand même demandé à avoir un coaching privé de 3 heures, je crois, pendant la formation.
Ouais.
Et je me souviens encore très clairement. Et en plus, c'était drôle parce qu'il y avait plusieurs coachs qui participaient. Moi, je n'ai pas été coachée par Charlotte, mais j'ai demandé à ce que ma coach, parce qu'ils en avaient une qui habitait en Angleterre à Londres, et j'ai demandé à ce que ce soit elle. Parce que tu vois, tu m'as posé la question en anglais ou en français, moi je voulais franglais. Je dis, j'ai pas envie que quand je parle, je dois réfléchir dans quelle langue je dois te parler. J'ai envie que ça sorte naturellement.
D'accord.
Et là, si je parle avec quelqu'un qui parle franglais, ben, on peut avoir des conversations.
C'est la langue émotionnelle finalement pour toi.
Exactement. Ouais. Donc du coup, je me souviens avoir travaillé avec elle.
Alors, tu dis FIExpat, je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit. FIExpat, c'est un podcast dans lequel tu donnes, on va voir si, moi je ne suis pas une bonne pitcheuse, mais dans lequel tu donnes la parole à des femmes, uniquement à des femmes qui ont décidé de partir vivre à l'étranger. Parfois, elles sont revenues, parfois elles sont encore là-bas. Et tu as fait une organisation par saison, j'ai bien écouté,
oui.
En fonction de où tu te trouvais dans le monde. Puis, tu t'es concentré après sur différentes régions où se trouvaient les gens à qui tu voulais parler.
Exactement.
J'ai bon, j'ai pas bon.
T'as plutôt bon. Okay. J'ai essayé aussi que du coup, parce que du coup, je suis allée chercher des femmes pour qu'elles puissent m'aider moi aussi dans cette quête en fait et dans ce changement. Mais je voulais que les épisodes de podcast et mes échanges puissent servir à d'autres femmes. Donc je me suis dit, si je veux aider un maximum de femmes, il faut qu'un épisode traite d'un pays.
Ouais,
tu vois, c'est pour ça aussi que j'étais partie sur cette logique d'un épisode, un pays, parce que je voulais aider un maximum de personnes.
D'accord. Et le podcast, c'est aussi un outil merveilleux quand tu te poses beaucoup de questions, parce que ça te donne d'une certaine manière, en tout cas, moi je sais que je l'ai vécu comme ça au début, la légitimité d'aller poser des questions à des personnes à qui tu n'aurais peut-être pas forcément accès, qui n'accepteraient pas forcément d'aller juste boire un café avec toi parce que tu as des questions à leur poser.
Clairement.
Quoi. Et c'est hyper précieux. Il y a énormément de gens qui se lancent dans le podcast parce qu'ils ont tout simplement des questionnements de tout genre sur tous les thématiques.
Mais moi, je trouve que c'est un super moyen de prendre contact avec des personnes, de leur donner une raison de parler avec moi parce que les gens, ils aiment bien parler d'eux.
Ouais.
Et je trouve que c'est un bon moyen, même juste pour faire des rencontres, en fait.
Tu te fais coacher sur FIExpat. Nous voilà fin été 2020. T'as posé ta démission. La démission au Canada, ça doit être comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne donne pas 6 mois de préavis. 2 semaines après, t'es out.
Je leur ai donné 3 mois.
Ah, sympa. D'accord.
J'étais sur un énorme projet. Ouais. Vraiment.
Donc pour leur donner le temps de se retourner.
J'avais un rôle très important. Ouais. Donc ça aurait été impossible de me remplacer en 2 semaines. Je ne vais pas me vanter ou me lancer des fleurs. Mais moi, je me voyais. En fait, quand je pars d'une entreprise.
Tu voulais faire ça proprement, quoi.
J'aime bien partir proprement.
Ouais.
Et surtout que je respecte mon entreprise et mes collègues.
Et toi, du coup, ça te donne 3 mois pour savoir comment te lancer sur la suite. Parce que, enfin, lancer un podcast, c'est super cool. Mais je veux dire, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, tu leur donnes 3 mois. Tu ne vas pas toucher le chômage ou quoi que ce soit. Parce que tu es au Canada. Au Canada. Il y a quelques avantages sociaux, mais on va pas se mentir, il n'y en a pas vraiment, à part la santé au Canada peut-être. En France, puisque tu bossais à l'étranger, t'as rien qui t'attend non plus. Et vivre du podcast, enfin, ça se saurait si c'était simple. Enfin, je veux dire, si suffisait juste de lancer un podcast. Du coup, t'envisages comment la suite, quoi ? Parce que t'as 3 mois, du coup, pour essayer de préparer ton atterrissage, de rebondir.
C'est ça. Alors déjà, avant d'en arriver à là, j'ai envie de dire un petit truc.
Mm-hmm.
C'est que au Canada. Quand tu annonces ta démission et que en plus tu leur expliques la raison de ton projet, moi j'ai eu des réactions mais fantastiques.
Ouais.
Contrairement encore une fois à la France,
ouais.
Où je me souviens avoir fait un post sur Facebook en disant que je venais de poser ma DEM.
Ouais.
Si tu voyais des messages que j'ai reçus de personnes en France qui ont jamais vécu, qui savaient même pas la vie que je vivais, mais qui venaient me donner leur avis, j'étais mais c'est fou. Je me souviens, la réaction entre les deux, elle était mais le jour et la nuit. Mais j'étais mais
c'était quoi le genre de réaction que t'as eu ?
Ouais, mais tu sais, peut-être que oui, ouvrir un bar, ça peut paraître fun, mais c'est très compliqué. Tu sais, comme si je m'étais pas renseignée en amont, en fait.
Ouais.
Et comme s'ils savaient ce que c'était.
Ouais.
Puis comme s'ils savaient ce que c'était de travailler dans une usine aussi, en fait. Enfin, on sait pas la vie que les gens y mènent. Et j'ai demandé mon.
Tu connais pas
personne,
le cheminement
en fait.
Non plus, voilà. Déjà. Ouais.
Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ça, que la réaction, elle a été vraiment, vraiment unique.
Donc, très soutenante
et très
Canada.
Positive, ouais, ouais. Au Canada. Et donc, dans la formation que j'avais suivie avec Charlotte, il y avait une semaine où il y avait une étape très importante. C'était le bilan financier, mais d'un point de vue perso, en fait, te protéger financièrement.
Ouais.
Donc, déjà, revois comment toutes tes dépenses, diminue tes dépenses là, maintenant, tout de suite, parce que tu sais que tu vas poser ta DEM.
Mmh.
Moi, j'avais déjà de l'argent de côté quand même. Hein. Je mettais de l'argent de côté pour acheter une maison. Donc, je ne partais pas avec 0 sur le compte en banque. Et en fait, je me disais, si en plus, une fois que j'arrive en Guadeloupe, j'arrive à essayer de diminuer mes dépenses, je peux m'en sortir pendant plusieurs mois.
Mmh.
Et aussi, une chose qui me rassurait quand même beaucoup, il faut se l'avouer, c'est qu'au final, j'ai toujours un diplôme d'ingénieur et un CV avec une expérience qui est quand même pas rien.
Mm-hmm.
Donc, je me dis, si vraiment financièrement.
Tu peux toujours rebondir et trouver du boulot.
Ouais. Et il y a toujours papa et maman qui sont là si on a vraiment besoin d'aide.
Ah ouais, on peut partir sans les prévenir. Par contre, on peut revenir.
Non, mais depuis, on a quand même une relation qui est beaucoup plus fusionnelle, j'ai envie de dire.
Coucou papa, coucou maman.
Oui.
D'accord. Ok. Donc du coup, tu prépares donc grâce à cette formation ton retour. Tu rentres en France du coup. Enfin, je veux dire, où est-ce que tu prévois de partir directement vers la Guadeloupe ?
Non, j'avais pris un aller simple Montréal-Guadeloupe parce qu'il y avait des vols simples depuis Montréal, pas de Toronto.
D'accord.
Sauf que comment te dire que 2 jours avant le départ, deuxième confinement annoncé en France et que mon vol a été annulé pour une durée à
déterminer. Guadeloupe, c'est la France. D'accord.
Exactement. Donc là, on me disait, Air Canada me disait, c'est soit vous attendez. Mais j'ai bien fait de pas attendre parce qu'ils n'ont pas remis les vols avant 1 an et demi, je crois.
Oh,
ou soit, vous rentrez à Paris et de Paris, vous pourrez repartir en Guadeloupe. Donc, vive l'empreinte carbone. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix. Parce que moi, là, à ce moment-là, je dors sur le canapé d'une copine à Montréal. Je viens de vendre ma voiture, j'ai plus rien. J'ai qu'une valise.
T'es prêt à partir, quoi.
J'ai une valise avec des habits d'été. L'hiver approche. Il faut que je parte.
Ouais.
Et donc, je suis rentrée chez papa-maman.
D'accord.
Chose que j'avais quand même un petit peu préparée. Parce que, aussi, une autre chose qu'on m'avait prévenue pendant la formation de post-ADEM, c'est toujours avoir un plan B. Chaque décision qui est importante. Et un plan B. Donc moi, je m'étais dit, en plus, c'était pendant le Covid, donc si j'ai le vol qui était annulé, j'avais déjà anticipé ce scénario. S'il est annulé, qu'est-ce que tu fais ? J'avais demandé à mes parents, est-ce que c'est OK que je reviens chez vous ? Et j'avais même contacté le copain de ma cousine qui ouvrait une franchise à l'époque. Et je lui avais dit, est-ce que tu m'accepterais en stage ? Pas pour gagner de l'argent, juste pour que moi, j'apprends des choses qui sera en lien avec ce que j'ai envie de créer.
D'accord, ok.
Donc, un petit plan B.
D'accord, alors du coup, tu restes combien de temps en France ? Comment est-ce que ça se passe, ce retour ?
Très compliqué, parce qu'on est confinés, que du coup, je me retrouve...
Puis tu rentres chez tes parents, après la liberté t'as beau les aimer, etc., c'est pas toujours facile, j'imagine ?
Non, c'est pas facile du tout. Surtout qu'à l'époque, en plus, je continuais toujours à beaucoup travailler ou m'investir sur le podcast qui n'est pas encore très connu en France.
Les gens ne comprennent pas pourquoi je passe autant de temps derrière un ordinateur à développer quelque chose qui ne me rapporte rien.
Après, il y a une passion aussi.
Enfin... Ouais, mais ça, est-ce que les gens comprennent que ça peut être une passion? Je ne sais pas. Moi, on me disait plutôt pourquoi là, tu ne cherches pas un travail, pourquoi tu ne demandes pas à Arcelor là de te réembaucher, c'est juste ici pour gagner de l'argent et peut-être après avoir du chômage. Sauf que j'ai essayé, hein. J'ai remis à jour mon CV, mais rien que l'idée de lire des annonces, j'avais, je te jure, envie de gerber. Ouais. Pas de gerber. J'avais envie de vomir.
Ouais.
C'était vraiment une sensation horrible. Je me suis dit, non, j'ai pas fait tout ça pour retourner là-dedans, en fait. Et pour moi, l'aspect financier, il était plus attrayant.
Ouais.
Donc, je suis restée 2 mois. J'ai fait mon stage, du coup, chez mon cousin. J'ai envie de l'appeler mon cousin. J'ai adoré et ça m'a confortée.
C'est une franchise de quoi ?
Ça s'appelle Paye ta crêpe.
D'accord.
Ils font des crêpes. Donc, j'ai adoré parce que du coup, j'ai appris le côté business plutôt que le côté vente.
Ouais.
Et donc, ouais, là, je me suis aussi rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me motivait.
Mm-hmm.
Et même si ça a ses challenges, mais du coup, j'étais vraiment confortée dans cette idée-là. Et début janvier, j'ai pris mon vol à l'Essimple Paris-Guadeloupe.
D'accord. Et comment est-ce que tu avais choisi la Guadeloupe ? On ne s'est pas arrêté là-dessus.
Guadeloupe, comment je l'ai choisi ? Alors, plusieurs critères. Premier critère, je voulais rester du côté de ce côté du monde, proche de l'Amérique. Proche D'accord. de l'Amérique du Sud, etc. Donc déjà, ça te limite
sur le globe. Hémisphère Nord et Amérique du Nord.
Ouais, tout ce qui est côté américain. Ensuite, je voulais que ce soit l'été 8 mois dans l'année.
D'accord, ça, pourquoi ?
Parce que j'en pouvais plus de l'hiver.
Après avoir vécu à Toronto,
c'est ça. Okay. Chicago inclus. Mm-hmm. J'en pouvais plus de l'hiver. J'avais envie de retourner en territoire français.
Mm-hmm.
Parce que mon papa allait prendre sa retraite. Donc, je me suis dit, ça serait bien que je retourne quand même dans un territoire français parce que tu sais qu'on se pose tous la question en tant qu'expat à un moment donné. Est-ce que je rentre en France pour me rapprocher de ma famille parce qu'ils vieillissent? Et donc là, je me suis dit, bah, c'est nickel. Comme ça, si je vais... Donc là, les choix, il me reste Guadeloupe, Martinique.
Mmh.
C'est super pour eux, être à la retraite et venir passer quelques mois sur les îles. C'est facile. Donc ensuite, j'avais prévu en avril 2020 un vol Martinique-Guadeloupe. Je devais aller visionner les deux îles. J'avais prévu de rencontrer des personnes avec qui échanger. Malheureusement, je ne te fais pas de dessin, vol annulé. Donc là, je ne me voyais pas attendre et je me suis dit, ben, pourquoi la Guadeloupe ? Je voyais qu'il y avait l'esprit, c'était plus diversifié que la Martinique. Chose que je peux dire aujourd'hui après avoir visité aussi la Martinique. Et je me retrouvais plus dans ce que je recherchais en Guadeloupe. Donc du coup, j'ai décidé de partir là-haut.
D'accord. Voilà. Ok. Et tu y étais déjà allée auparavant ?
Non, jamais.
Ah ouais ?
J'avais déjà été dans les Caraïbes, mais jamais en Guadeloupe.
Ok, d'accord. Donc du coup, tu prends tes avions.
Je prends l'avion.
Et comment se passe l'arrivée ? Comment est-ce que tu envisages ce que tu as préparé ? Puis après, ce qui s'est passé ? Il y a un décalage ?
Ah bah, clairement, un énorme décalage. Parce que du coup, mais je pense que Covid a beaucoup à faire. Désolée, je parle que de Covid et je sais qu'on n'a plus envie d'en entendre parler, mais...
T'as entendu hein, les messages, on m'a dit plus de Covid.
Bah, j'ai oui, entendu, mais... Bah, oui, mais ça fait partie de notre histoire malheureusement.
Exactement.
Comme tu l'as justement dit. Je suis arrivée dans une auberge de jeunesse pour diminuer mes coûts de logement. Donc je travaillais en Workaway. Donc en échange de tâches, j'étais hébergée gratuitement. Là, j'ai rencontré plein de voyageuses qui voyageaient pour la première fois en solo, qui découvraient un peu de nouvelles choses. Ça n'empêche que je continuais Fixpat à côté, parce que pour moi, maintenant, Fixpat, ça devenait vraiment une passion. Je ne pouvais plus m'arrêter en fait, de le faire, parce que je pense qu'aussi d'interroger toutes ces femmes, ça m'aidait dans
ça
mon avancement.
Ça nourrit tes questionnements aussi.
Exactement. J'imagine. Et en parallèle, je faisais tout pour joindre un incubateur pour m'aider dans mon projet de bar. Je voulais travailler comme serveuse aussi, mais on n'arrêtait pas d'être confinés. Donc, et puis forcément, en France, s'ils embauchent quelques serveuses, ils ne vont pas embaucher Kelly, qui est ingénieure en sidérurgie, tu vois.
Ouais.
Ils vont embaucher quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais. Donc, ça a été très, très, très compliqué. En fait, à chaque fois, je disais, j'ai l'impression que quand je faisais un grand pas, après, j'en faisais trois en arrière. Mmh. Enfin, tu sais, ça avançait très doucement.
Donc, grosse frustration, j'imagine, quand même.
Grosse frustration. Je me sentais très seule parce que je vivais seule.
Ouais.
Au bout d'un moment, c'était épuisant. Et donc, en août 2021, quand ils ont annoncé un troisième confinement, j'ai craqué.
Ça faisait combien de temps que tu étais là, du coup ?
Ça faisait seulement 8 mois.
D'accord.
8 mois, ouais. Mais en fait, c'était plus, tu sais, tout ce qu'il y avait autour de Covid. Pas forcément l'île en elle-même, mais plus tout ce qu'il y avait autour de tout ça.
La situation, quoi.
Ouais, mon avancement et tout ça. Puis je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à mon projet, parce que je me disais, punaise, toutes les casquettes que je vais devoir porter pour mener ce projet à bien, comment je vais réussir physiquement, en fait ? Et donc, je me souviens avoir craqué. J'ai été voir une psy le jour-là. Et elle me dit, Kelly, il faut vraiment que tu te focuses sur ce que tu peux gérer et pas sur ce que tu ne peux pas gérer. Ouais. Donc du coup, là, je me disais, bah, en fait, ce que je peux me gérer là aujourd'hui, c'est de partir.
Mm-hmm.
Parce que là, les choses, elles sont trop, contraignantes. Ouais. Et donc, je suis partie pour Atlanta pendant un mois.
Et comment t'as choisi de partir à Atlanta ?
Parce que j'ai ma copine Molly, américaine, que j'adore et avec qui j'ai échangé déjà depuis très longtemps.
Une copine de Chicago ?
De Chicago, ouais.
D'accord.
qui venait de se faire larguer par son copain avec qui elle était depuis 8 ans, qui s'était fait virer de son travail en Floride.
D'accord.
Et qui venait d'arriver seule à Atlanta. Elle se sentait seule, je me sentais seule, on s'est dit bon. Bah.
Mais en 2021, il y avait encore le travel ban, non ?
Eh bien, pas depuis la Guadeloupe. Parce qu'on ne faisait pas partie de l'espace Schengen. Donc, c'est ça qui était ridicule à l'époque. C'est que nous, on a l'île qui est confinée, mais j'ai le droit d'aller prendre un vol vers Miami, quoi.
D'accord. Pas alors comprendre. Que pour les gens qui n'auraient pas suivi, depuis la France ou depuis l'Europe en général, il y avait d'autres pays aussi, il fallait faire 3 semaines ou un truc comme ça de quarantaine au Mexique ou au Canada. Ou
ah non, moi, je suis arrivée à Miami. On s'en foutait si j'avais été vaccinée. On s'en foutait de tout.
Ah ouais ?
Ah ouais, c'était fou.
Nous, ils vérifiaient les vaccins quand même.
Ils ont vérifié à l'aéroport de Guadeloupe. Mais
ouais, au départ.
Au départ, quoi.
Ah oui, c'est ça, ouais, d'accord.
À l'arrivée, pas vraiment.
Waouh, ça paraît loin tout ça.
Ça paraît super
heureusement.
Loin. Et en même temps, ça paraît très proche.
Ouais. Donc, tu pars à Atlanta avec quoi comme objectif, du coup, de remonter le moral à ta copine ?
Aucun objectif, parce que je me souviens quand j'ai rencontré Maïré, qui est une entrepreneuse guadeloupéenne à Atlanta, et qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui ai répondu, I'm a lost bird.
Ah ouais.
Je me souviens.
Je suis un petit oiseau perdu.
Voilà. Oui, oui.
Ouais.
Et tu vois, je suis même émotionnelle à l'idée de m'en rappeler parce que je me disais, ouais, en fait, qu'est-ce que je fais, en fait ? Mais émue. Désolée. Pour ceux qui m'écoutent, ils doivent se dire, c'est incroyable. Mais,
c'est une running joke parce que Kelly fait plein d'anglicismes.
Ouais,
du coup, ça me fait rigoler. Mais il n'y a aucun problème. T'inquiète pas, on comprend ce que tu dis.
Merci. Je me souviens avoir été littéralement. Enfin, ouais, je ne savais pas. Je ne sais plus ce que je fais. Est-ce que je retourne en Guadeloupe ? Est-ce que je ne retourne pas ? Je ne sais pas.
Ouais, d'accord. Donc, tu cherchais un peu des réponses sans les chercher activement, mais
Exactement.
Ok. Et donc, du coup, cet entrepreneur que tu as rencontré, tu l'as rencontré comment, du coup, grâce à quoi ?
Oui, j'avais rejoint un incubateur en Guadeloupe. J'avais un mentor qui était super, qui est d'ailleurs un podcasteur, donc c'était trop drôle.
D'accord.
Et en fait, donc j'ai avancé sur mes business plans et tout ça. J'ai eu plein d'idées. Mon projet a un peu varié, mais dans la bonne direction.
Mm-hmm.
J'avais même mon logo, le nom de l'entreprise, etc. Mais là, ouais, je me dis, bon, bah, j'attends de voir que ça passe et on verra ce qui se passe. Et là, en fait, donc je le savais parce qu'elle, comme c'était une Guadeloupéenne qui, quand même, vivait aux États-Unis maintenant et qui avait lancé 2 entreprises, elle était connue sur l'île.
Ouais.
Et donc, en fait, je l'ai contactée en lui disant, non, encore mieux que ça. J'étais en train de travailler dans un café coworking en Guadeloupe, avec Anastasia d'ailleurs, du podcast. Et j'entends 2 femmes en train de parler derrière moi qui parlent qu'elles rêvent d'aller vivre au Canada. Donc, je me suis littéralement incrustée dans leur conversation en leur disant...
Salut, moi, c'est Kelly.
Alors, moi, c'est Kelly. J'ai un podcast sur l'expatriation et je traite du Canada. Donc, si ça vous intéresse, voilà le nom. D'ailleurs, je peux vous donner quelques conseils si vous voulez. Et là, on échange et tout ça. Et je leur explique que là, je partais à Atlanta. Elle me dit, ah, bah, je connais Maïré qui attend là. Je dis, comment ça, tu connais Maïré ? Elle me dit, oui, j'étais à l'école avec elle. Je lui dis, mais écoute, j'essaye de la contacter, mais elle ne me répond pas. Est-ce que tu pourrais la contacter ?
Toi, tu l'avais déjà identifiée comme...
Je l'avais déjà identifiée. Je m'étais dit, ben, quitte à aller à Atlanta, autant faire d'une pierre 2 coups. En
D'accord.
fait. Moi, j'aime bien être très efficace quand même dans ce que je fais. Et donc, elle a dit, attends, ben, je vais lui envoyer un message WhatsApp. Elle lui a envoyé un message et le lendemain, Marie me répondait.
Génial.
Et on prévoyait un rendez-vous. Ouais, c'est
D'accord. Fait. Et cette personne, en fait, a changé le cours de ta trajectoire.
Exactement.
Comme quoi, il faut écouter la conversation de ses voisins au café, quoi.
Exactement. Et s'incruster et oser demander.
C'est ça.
C'est très important.
Ouais.
Et donc, ouais, elle a changé la trajectoire parce que du coup, elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'une freelance.
Pour faire quoi ?
Pour l'aider dans tout ce qui était remise à jour de tous les process, les procédures, parce qu'ils n'avaient rien en place. Et leur start-up, elle évoluait très, très, très rapidement.
Donc, quelqu'un qui fasse un peu office de CEO ou un truc comme ça.
Exactement.
D'accord.
Donc de là, je suis partie au Mexique parce que le Mexique, ils n'étaient pas confinés et c'était moins cher.
Tu n'avais pas de visa pour travailler depuis les États-Unis ?
Non.
Donc pour être sur le même fuseau horaire ?
Exactement.
D'accord.
Et aussi parce que du coup, j'allais rejoindre Tiffany aussi qui m'aidait à l'époque avec le podcast et qui avait trouvé un co-working, co-living, pardon.
Alors Mexique. C'est quoi un co-living ? Attends, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de nomadisme et de tout plein de choses. C'est quoi le co-living, le co-working, tous les machins ? Enfin, c'est pas quelque chose, je pense, qui est hyper connu. Quand tu n'évolues pas du tout dans ce domaine-là.
Ok. Alors, un coworking, ça va être un endroit où les gens vont se retrouver pour télétravailler. Donc, chacun est en général, tu es dans une pièce, tu travailles derrière ton ordinateur. Mais de temps en temps, quand tu fais des pauses, ce qui est super sympa, c'est que tu échanges avec soit d'autres entrepreneurs, soit d'autres personnes en télétravail. Donc, c'est des échanges qui sont sympas que tu n'aurais pas si tu restes télétravailler chez toi.
Ouais.
Un co-living, c'est... un coworking, mais où tu peux vivre dedans, où tu dors sur place, en fait. Donc, c'est comme une auberge slash coworking.
Et donc, c'est quoi ? C'est genre, on se retrouve à 10, on loue une maison et la maison, elle est suffisamment sympa pour qu'on puisse passer la journée pour bosser. Et
Exactement. Et là, en l'occurrence, le co-living que Tiffany avait trouvé, eux, ils avaient fait un travail de fou pour rendre l'expérience de coworking excellente. Une super connexion Internet, un décor magnifique tout en bois, avec des plantes partout. Et donc, du coup, tu as même des femmes de ménage, des jardiniers. Donc, toi, tu as vraiment... Tu t'occupes de pas grand-chose, en fait. D'accord. Déjà, de pas s'occuper du ménage.
Donc, grand
quand tu
luxe,
vis à 10,
mais c'est pas des vraies vacances.
Voilà, exactement. Ouais. Mais après, les week-ends, oui, tu peux partir. Et puis, du coup, tu as des amis avec qui partir. Donc, c'est moi, c'est une expérience que j'adore.
Et en fait, là, ça fait combien de temps quand du coup, tu retrouves Tiffany pour aller dans ce co-living? Ça fait combien de temps que tu as quitté la Guadeloupe? Quelques mois?
Ouais, parce que j'ai quitté la Guadeloupe en août et là, je suis arrivée dans le co-living en octobre.
D'accord. Donc, en fait, tu le sais pas à ce moment-là, mais là, c'est là qu'en fait commence la vie de nomade, en fait.
Carrément.
Ça que tu te mets.
Carrément. Et du coup, ça a été même un peu. Ça a été difficile parce que là, tu travailles. Déjà, moi qui est très sociable, tu l'as remarqué, très extraverti. Là, maintenant,
Kelly parle à des murs. Hein, dans les
carrément.
Donc, et les gens lui répondent.
Je squattais la cuisine du co-living.
D'accord.
Parce que tout le temps, des gens viennent se faire du café.
Ouais.
Lieu de vie. Donc, moi, je passe mes journées à parler, à écouter des histoires de nomades qui me font rêver.
Ouais.
J'essaye de travailler aussi, c'est pas évident. Et puis là, grosse remise en question. Je fais quoi?
Bah là, tu bosses pour Maire.
Oui, là, je bosse pour Maire, mais je vais faire quoi après? Enfin, tu sais, ça va pas être à durée illimitée non plus. Donc là, j'ai rappelé papa et maman en leur demandant est-ce que je peux revenir à la maison pendant quelques mois, parce qu'en fait, j'ai besoin d'une pause. Parce que même si je suis extravertie, j'ai besoin
de mes
moments.
Être sans cesse
en
mouvement, c'est pas facile de se poser des questions quand tu es tout le temps dans le...
Épuisant.
Ouais.
Et même d'ailleurs, mes parents, je leur ai pas dit que je rentrais. Tu sais, je leur dis pas quand je pars, je leur dis pas quand je rentre non plus. Donc je mange, j'ai pas appelé papa et maman. Je me suis pointée un jour devant leur maison. Quand je m'entends parler, je me dis, mais c'est fou cette fille.
Ils sont cool tes parents quand même.
Ils sont cool, ouais. Et je me souviens, c'était trop drôle parce qu'en plus, j'avais une voiture de location pour revenir de l'aéroport et j'avais fait exprès de me garer devant la porte du garage parce que je sais que c'est quelque chose qui énerve mon père. Mon père s'énerve quand même assez facilement. Et je me souviens, j'ai une vidéo parce qu'ils étaient partis marcher. Je traque mes parents sur l'iPhone et donc je sais en tout temps où ils sont. Et je sais qu'ils ont leurs habitudes à aller marcher tous les jours. Donc, je suis revenue exactement au moment où je savais qu'ils allaient revenir de leur marche. Et j'ai une vidéo de lui. Et c'est, mais c'est qui s'est carré devant la porte du garage? Mais franchement, n'importe quoi. Mais c'est quoi cette voiture? Et moi, j'étais surprise. Et donc, je suis revenue chez eux. Et j'ai même dit, j'aimerais bien que pour l'instant, personne ne sache que je suis rentrée.
Ah ouais.
Parce que j'ai besoin de ce temps pour moi. J'ai besoin de me reposer.
Qu'on ne pose pas de questions, quoi, finalement.
Voilà.
Et que toi, tu puisses...
Exactement. Parce qu'on allait me poser des questions. Mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu vas faire?
Et c'est quoi? On te demande toujours, en fait, c'est quoi qui va venir après?
Exactement.
D'accord.
Donc là, j'étais... il me faut ce moment pour moi.
Ouais.
Et je pense que même en tant que parent, hein, ça ne doit pas être évident de voir sa fille de... J'avais quel âge à l'époque? 35, 36 36, ouais, je ne sais plus. Dans cette phase, en fait.
Ouais.
Et puis là, en plus, je commence à avoir des sponsors. Donc là, je me dis, ah, mais peut-être que je peux vivre de mon podcast. Parce que moi aussi, c'est ça qui me revenait beaucoup en tête. C'est j'aimerais pouvoir développer le podcast et en vivre parce que c'est ça qui me passionne. Donc voilà. Et ensuite, où est-ce que je suis partie à partir de là? Je ne sais même plus ce que j'ai fait.
Bah, t'es revenue au Canada?
Ah non, donc je suis en France. Et là, je reçois ma... Là, je sais que je vais recevoir ma convocation pour passer mon test de citoyenneté canadienne.
Donc toi, en parallèle de tout ça, tu ne sais pas vraiment où tu vas finir, ce que tu vas faire, mais... En parallèle de tout ça, tu avais lancé toute la procédure pour devenir canadienne.
Je l'ai fait avant de partir. Parce que tu te souviens, toujours avoir un plan B.
Ouais, c'était ça ton plan B.
Pour moi, avoir un plan B... Ah ben en fait, je me disais, je suis tellement proche du but que ça serait pas très intelligent de ma part de partir sans avoir ce Graal qui est le passeport canadien et qui puisse me permettre de pouvoir revenir quand je veux, en fait.
Ouais.
D'avoir cette liberté. Bon, tout le monde me dit, ouais, et puis en plus, si tu as des enfants, tu leur donnes un deuxième passeport. Bon. C'était pas du tout ça la raison. Moi, c'était mon plan B. Ouais. Si ça se passe mal en France ou en Guadeloupe, je peux retourner au Canada.
D'accord.
J'ai cette possibilité.
Tu repars pas de zéro, quoi. D'accord.
Plan B, toujours très important. Et donc là, je savais que normalement, j'allais passer ma citoyenneté, mon test en tout cas, ou le serment. Donc, je zonais aux alentours du Canada parce que je me dis, si là, je retourne au Mexique, par exemple, et que je dois acheter un billet d'avion en dernière minute, ça va me coûter un bras financièrement. Là, tu vois, je te parlais que j'avais de l'argent de côté, mais j'étais pas non plus millionnaire.
Ouais,
donc là, je commençais un peu à. Tu vois,
puis tu veux pas arriver à sec, quoi.
Voilà, il faut que je me serre un peu plus la ceinture. Donc j'ai commencé là à faire le pet sitting, le house sitting, pour essayer d'économiser
d'accord.
un peu d'argent.
En attendant, en fait, que ça arrive. Okay.
En attendant, très longuement. Donc ça
tu l'as fait au Canada et aux US.
Les deux. Et là, ça a été une période très. Enfin, pour moi, je catégorise 2022 comme une année stressante, challenging, difficile.
De transition, quoi, en fait. Avec
beaucoup transition, mais avec une contrainte qui est quand même.
Géographique,
mais même financière, parce que vivre en Amérique du Nord, Ça coûte énormément
surtout
d'argent.
Surtout depuis le Covid, sorry de revenir encore à ça. Mais...
Exactement, exactement. Ouais. Donc en fait, c'était très compliqué. Et puis tu essayes de développer quelque chose, donc tu passes des heures à créer, etc.
T'as pas envie de les compter, tes heures.
Ouais, non. Donc ça a été très, très dur.
Ouais, ouais, j'imagine. Et alors, à quel moment est-ce que tu as reçu ce courrier tant attendu ?
Je l'ai reçu le 14 septembre, date que je mémoriserai à vie.
Mon anniversaire de mage, bah, ça arrive bientôt, là, c'est super.
Ouais. Je l'ai reçu le 14 septembre. Oh, attends, je ne sais plus si c'était le 14 ou le 22. Non, je crois que c'était le 22, désolé. Et j'étais à Montréal en train de garder les deux chats d'une copine qui était rentrée en France.
D'accord.
Et donc là, je savais aussi que je pouvais payer pour faire l'envoi du passeport express. Mais je me disais, ouais, si je le reçois en express, mais je vais où après, en fait ?
Ouais.
Donc là, je me
suis... On en revient en fait toujours à cette même question.
Toujours
c'est
à cette
quoi
question.
Qui vient après
et exactement, et c'est une charge mentale. Mais là, comme financièrement et professionnellement, je suis déjà en train de me chercher, ça serait bien que j'arrête de me chercher géographiquement. Donc je me suis dit, je vais rester à Montréal plusieurs mois. Je connais pas mal de monde en plus. Donc au moins, je peux avoir la partie faire la fête qui est satisfaite, qui a
au moins,
qui est cochée.
Au moins, ça
a checké. Et en plus, c'est facile de trouver des colocations aussi à Montréal. C'est aussi pour ça.
D'accord, ok.
Et c'est moins cher. C'est la ville la moins chère pour les colocations au Canada.
Ah ouais, dans les grandes villes, quoi.
D'accord. Ouais.
Ok. Alors, tu restes combien de temps à Montréal ?
Et je suis restée jusque fin mars 2023.
D'accord, donc tout récent, puisque là, on se parle fin août 2023.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et alors, à quel moment est-ce que tu as réussi à y voir plus clair, finalement, sur la suite ?
Je ne sais pas si je vois toujours très clair hein, sur la suite. En fait, je pense que maintenant, j'ai accepté que c'est ok de vouloir fréquemment changer d'endroit et de job, en fait. Parce que je pense que j'ai accepté que la vie, c'est pas seulement une adresse fixe et un travail fixe.
Ouais.
Ça peut évoluer avec le temps. Et c'est vrai que du coup, moi, j'évolue tous les 2-3 mois. Donc, ça peut paraître très intense pour certaines personnes. Mais pour moi, ça me correspond. Parce
qu'en
fait,
un rythme qui te va, quoi.
C'est un rythme qui me va parce que dès que j'arrive quelque part, je suis contente de découvrir un nouvel endroit, des nouvelles personnes, un nouveau travail. Et je pense que là, moving forward, comme ils disent les Américains, je pense que c'est ce que je vais m'amuser à faire. En fait, tous les 2-3 mois, je vais me poser quelque part, rester plusieurs mois, bouger, etc. Jusqu'à ce que je trouve un endroit.
Jusqu'à ce que
tu n'aies
pas envie de continuer, finalement.
Voilà,
enfin, t'as
exactement.
Pas de contrainte. Donc, en fait, quand tu étais à Montréal, au Québec, c'est là que tu as acheté cette magnifique voiture qui est juste en face de moi, là, devant, dans la rue. Donc, du coup, c'est un Dodge Caravan que tu as aménagé l'arrière pour pouvoir y poser ton lit et donc pour pouvoir vraiment partir à l'aventure. L'objectif n'étant pas de passer ta vie dans ta voiture, mais de pouvoir en fait être très mobile et de pouvoir partir avec ta voiture à peu près n'importe où.
Exactement, parce que j'étais avec un coloc français qui était arrivé à Montréal en PVT, le permis vacances-travail, et il s'est acheté un Dodge. Alors déjà, il me dit, je l'ai payé, je crois, 4 500 $. Je ne pensais pas que c'était aussi peu cher, tu vois, d'acheter un
Après, ça dépend combien de kilomètres.
Oui, exactement. Et j'ai commencé à la rouler, sa voiture. Et je me suis dit, ouais, elle est cool à rouler. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est pratique quand même d'avoir un lit. Parce que du coup, ouais, comme tu l'as dit, ça me permet de faire des transitions plus facilement sans débourser un rein à chaque fois que je dois aller réserver un Airbnb pendant une semaine, tu vois.
Ouais. Et puis l'avion, l'empreinte carbone.
Et puis les habits aussi, mine de rien. On en revient au matériel. Mais moi, là, maintenant, je venais de me racheter tous des habits d'hiver.
Ouais.
Qu'est-ce que je fais de mes bottes, de mes manteaux, de mes pantalons, etc.
Ça coûte un bras.
Ça coûte un bras. Donc du coup, je me suis dit, là, en ayant mon petit van aménagé, je vais pouvoir, ça va pouvoir répondre à plusieurs de mes besoins. Un, avoir constamment avec moi tous mes habits. Et deux, pouvoir bouger facilement et sans devoir débourser un rein.
Et alors, donc, du coup, ton premier arrêt, ça a été les Rocheuses canadiennes.
C'est ça. J'ai traversé tout le Canada. Donc, j'ai acheté la voiture au Québec.
Ouais.
Je l'ai aménagée en Ontario. Merci à tous mes amis qui m'ont aidée dans la construction parce que c'est quand même
intense.
Travail d'équipe. Et ensuite, j'ai traversé le Canada en passant par Chicago parce que toujours un petit coup à Chicago obligatoire. Et je suis arrivée en Alberta. Je pensais que j'allais peut-être... J'hésitais entre Edmonton, Calgary, les Rocheuses, etc. Et puis finalement, j'ai fini dans la ville de Brack Creek. Sur recommandation d'une copine et qui m'a mis en relation avec un couple qui recherchait un coup de main l'été avec les animaux.
Trop bien.
Donc j'ai fait un mélange de pet sitting et de et de serveuse et de podcasteuse.
Ouais. Bon, en fait, j'ai envie de dire là, tu cochais toutes les cases.
Bah, je cochais beaucoup de cases, sauf la case fais des pauses.
Ouais.
Faire des pauses.
Parce que du coup, c'est super intense, quoi.
C'était très intense, ces deux mois.
Le problème, en fait, de toutes ces passions, c'est que quand est-ce que tu mets ton cerveau au repos ? Je veux dire, je sais pas, moi, quand je me suis lancée dans le podcast French Expat, j'y pensais dans la voiture, sous la douche, en donnant à manger à mon bébé.
Tu respires ton podcast.
Ouais. Et même, je trouve, enfin, je pense que c'est vrai avec toutes les passions, mais c'est difficile presque d'avoir d'autres conversations. Quand les gens arrivent pour te parler, pour faire la discussion, toi, t'as que ça en tête, quoi. C'est difficile finalement de réussir à t'en déconnecter et donc de te souvenir qu'il faut te poser, qu'il faut. Il faut avoir un certain équilibre entre tout ça, c'est compliqué. Hein.
C'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai adoré la conférence parce qu'on a fait que ça pendant 3 jours, parler de podcast.
Ouais, mais on a mis 3 jours à s'en remettre.
Mais là, je m'en remets toujours encore aujourd'hui, j'essaye de m'en remettre. Mais ouais, c'est intense. Ouais. C'est intense.
La conférence, c'était Podcast Movement la semaine dernière qui se passait à Denver et qui nous a permis de nous rencontrer en personne. Alors donc du coup, aujourd'hui, t'es à Denver, mais t'as pas décidé de venir t'installer à Denver, dommage.
Je peux pas.
Voilà, tu es canadienne, t'es pas encore américaine.
Si tu veux m'adopter.
Voilà, écoute, on peut en parler. Mais du coup, là, je sais que là, tout de suite, tu t'apprêtes à partir en road trip pendant quelques semaines avec une amie à toi qui vient par ici. Après ça, est-ce que t'as une idée? Alors, je sais qu'on a dit que c'était chiant de poser la question juste après, mais vu que c'est dans quelques semaines, peut-être que t'as une idée de ce que tu envisages, ce que t'aimerais en tout cas faire, ou peut-être... Des fois, je trouve que c'est plus facile de savoir ce qu'on n'aimerait pas.
Alors, j'ai eu une illumination un soir où je n'arrivais pas à dormir. Avec ma citoyenneté canadienne, je peux avoir un billet de train à 50%, donc j'aimerais bien profiter de cet avantage-là qui va s'arrêter en décembre. Donc, je me suis dit, OK, je dois acheter un billet de train. Où est-ce que je veux aller? Il y a une ville, Churchill, au nord du Manitoba.
Oui, tu m'en as parlé.
Mm-hmm. Oui.
Qui n'est accessible que en train.
Que en train ou en avion.
Il n'y a pas de route. D'accord.
Il n'y a pas de route. Et donc, Churchill, c'est où il y a les ours polaires.
Donc, je vais aller te faire bouffer par un ours.
Pourquoi pas aller faire des câlins aux ours polaires? Parce qu'en plus, j'ai rêvé que je prenais des ours polaires dans les bras, genre comme si
non,
c'était.
Non, mais le
possible.
Fais pas, hein,
Non, je vais essayer.
Vas-y si tu veux, mais ne câline pas les ours.
Je crois que je vais me limiter aux nounours pour les enfants. Mais j'ai eu ça, en fait. Et puis moi aussi, enfin, je pense qu'on a des rêves prémonitoires, j'y crois beaucoup. Donc, j'ai fait ce rêve, j'ai eu cette illumination.
T'es allé chercher sur Google ce que ça voulait dire, celui-là de rêve?
Non, maintenant, je vis un peu au jour le jour. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. J'en ai parlé d'ailleurs aux personnes chez qui j'étais. Est-ce que ça serait possible que je laisse ma voiture chez vous pendant quelques mois, parce que tu te souviens, je te disais quand j'arrive quelque part, je vais rester plusieurs mois, et ils m'ont dit avec grand plaisir, parce que du coup ça nous permettra de te revoir et tu vas pouvoir nous faire des quiches
par là.
Des bonnes quiches françaises,
trop sympa.
Et donc du coup, ouais, je pense que le plan ça va être ça. Je dois déposer mon ami à Los Angeles, je vais rerouler jusqu'à Calgary, donc ça va être très intense encore une fois, déposer ma voiture, prendre le train pour Churchill et rester là quelques mois, à condition que je trouve un poste sur place, bien évidemment, parce qu'on en revient toujours aux contraintes financières. Il faut quand même que je gagne de l'argent, mais aussi que je trouve un endroit où vivre, en fait, pendant 2 mois. Donc, c'est l'idée aujourd'hui.
D'accord, génial. Mais écoute, tu nous tiendras au courant, sachant que du coup, tu vas y arriver au début de l'hiver, quoi. Enfin,
oui, bah, l'idée, ça serait que je ne reste pas totalement pour la durée de l'hiver, mais une partie de l'hiver.
Ça doit être intense, l'hiver, là-bas.
Je pense que ça va être très intense.
Mais ça doit être dingue en même temps.
Mais je me dis, ça doit être magnifique. Et j'avais prévu peut-être de partir début décembre, mi-décembre. Je m'étais dit là, peut-être aller quelques mois en Polynésie française, parce que j'adore faire de la plongée, donc aller passer mon niveau de plongée. Mais comme il y a une conférence du podcast qui va se dérouler en Floride au mois de janvier, maintenant, est-ce que je ne vais pas rester un petit peu plus longtemps et partir plus tard?
D'accord.
This is the question. Okay. On verra bien.
Affaire à suivre. Eh ben, c'est génial, écoute, c'est super intéressant, en tout cas, ton parcours. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Est-ce qu'il y a... un conseil, un petit truc, je sais pas, du coup on se retrouve en 2020 en plein questionnement, un truc que tu pourrais aller chuchoter à l'oreille de la Kelly de 2020, un truc qui t'a peut-être aidé ou qui t'aiderait si tu l'entendais maintenant.
Fais-toi confiance et n'écoute pas trop les gens autour de toi.
Ouais, ne pense pas trop au qu'en dira-t-on.
Oui, c'est ça. Non. Ouais. C'est laissez-moi vivre ma vie en fait. Donc ouais, je lui dirais peut-être vis ta vie. Demande-toi ce qui te rend toi heureuse et pas ce qui rend les autres et la société heureux.
Ouais.
C'est toi qui est important et puis pour la suite, on verra. Et l'argent finit toujours par revenir aussi. Ça, c'est... Parce que j'ai toujours un peu des fois cette anxiété financière.
Ouais.
J'y travaille encore aujourd'hui et je lui dirais, t'inquiète, l'argent, tu t'es jamais retrouvé à la rue et tu te trouveras jamais à la rue parce que maintenant, t'as mal.
Et au pire, tu prendrais chez papa.
Exactement.
C'est curieux.
Je lui dirais ça aussi, je pense.
Trop cool. Merci beaucoup, Kelly.
Avec plaisir, merci à toi.
Et bon voyage du coup.
Merci.
« Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Kelly pour cette chouette rencontre. Vous l'aurez compris, une rencontre qui m'a marquée et que j'espère que vous aurez appréciée tout autant que moi. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, ça compte énormément. Parlez-en autour de vous, en ligne, dans la vraie vie, comme vous le sentez. Et n'hésitez pas à partager cet épisode auprès d'oreilles que cela pourrait intéresser. C'est la saison des fêtes. N'hésitez pas à partager votre bonne humeur et à nous dire ce que French Expat vous a apporté au cours de l'année 2023 en laissant un petit mot sur les applications de podcast. Sur Spotify, par exemple, vous pouvez laisser un petit mot sur chaque épisode ou encore sur Apple Podcast. Sur cette application, vous pouvez commenter le podcast au global. Au cours des deux prochaines semaines, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des parcours qui vous ont marqué et qui n'ont cessé d'évoluer depuis qu'on a coupé le micro. L'occasion donc de prendre des nouvelles. De belles histoires à écouter, seules ou en famille, sur la route ou en cuisinant, pendant les fêtes. Et si on découvrait justement un petit extrait ensemble de ce que nous allons écouter la semaine prochaine.
C'est une année, je crois, où tout le monde a compris que parfois, tu étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon dont tu n'arrives plus jamais à sortir et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on n'a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent. Et puis, en fait, je me regarde vieillir et je trouve que je ressemble à ma mère et alors que je ne parle plus à ma mère et que je n'ai pas envie d'avoir cette vie, et tu vois. Et donc, il y a eu tout chez moi, en tout cas, une prise de conscience où je me dis, la vie, c'est maintenant, quoi, plus que jamais. Je me disais, j'ai déjà ça en Californie, mais c'est maintenant, quoi.
Vous aurez peut-être reconnu la jolie voix de Déborah, aussi connue sous le pseudo de See You Soon en ligne. La semaine suivante, on prendra la route de l'Amérique du Sud. Allez, je vous laisse profiter de vos congés si vous en avez, ou en tout cas j'espère que vous êtes entourés de vos proches, et je vous retrouve dans quelques semaines pour de nouveaux épisodes. À très bientôt.
D'accord. Je dis 3 ans, mais en fait ça fait vraiment que 2 ans.
Non, janvier 2012, janvier 2013. Mmh. Sinon, ça fait 3 ans.
Ah bah oui, il y a 2013. Ouais. Faudra couper ça au montage.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!